Bon. Bref, ce que j'allais, oui, qu'est-ce que je vais raconter? Oui, donc j'ai à parler de DVD. Alors en fait, j'ai ramené 3 DVD de ma collection personnelle et j'ai également amené, parce que j'ai regardé cette semaine, une série de dessins animés japonais. Alors moi, je suis pas très doué en vocabulaire. J'appelle ça des dessins animés japonais. Je me ferai taper dessus par des fans. Comment on appelle ça des dessins animés japonais, Hervé?
Bon, généralement, ça dépend. Soit on peut appeler ça des dessins animés, soit généralement c'est des OAV.
Voilà, sachant que les OAV c'est plutôt des films.
Original animation vidéo, c'est-à-dire que généralement on prend une série de généralement c'est ce qui arrive maintenant, on prend une série de manga et ensuite on la transpose en vidéo.
Voilà. Donc ça s'appelle manga.
Il y a pas le terme de japanime aussi, je crois.
Il y a le japanime, mais bon, pour moi personnellement c'est à peu près la même chose. Voilà.
Mais pour les puristes, je sais qu'un OAV en fait c'est un film long métrage, alors qu'une série ça porte un autre nom, il me semble, non?
Alors là, tu me... Je sais pas.
Bon, bref, on s'en fout. C'est du dessin animé japonais. Voilà.
Erwan d'Escalamanga, si tu nous écoutes, tu peux nous appeler pour nous dire la réponse. Donc, je sais pas quel est le numéro de multiple.
J'en ai aucune idée. Il a qu'à chercher dans le.
Voilà. T'as qu'à chercher dans l'annuaire.
Ou alors t'appelles le portable à Hervé. Voilà. Je vais parler de Silent Moebius. Moebius, qui est en fait une série qui est assez courte, hein, puisque donc il y a eu apparemment une saison. Ça fait 26 épisodes. Et donc, c'est disponible en 5 DVD, un coffret de 5 DVD. Et donc c'est disponible, alors me semble-t-il, pour pas trop cher. Enfin, je crois que c'est un prix relativement modique pour cette série-là. Il faut savoir petit défaut de cette série, c'est que en fait c'est disponible soit en version française, soit en version japonaise. Il y a pas le DVD avec les deux versions sur le même DVD. Et donc c'est plutôt minimaliste. Mais bon, si c'est pour regarder des dessins animés, c'est pas trop mal. Donc le doublage en France, moi j'ai regardé la version en français. Le doublage français est pas trop mauvais. À part un truc qui est un petit peu énervant, en fait, en général, comme c'est une série où il y a pas mal de flashbacks dans le passé, dans l'enfance, en fait, généralement, ceux qui font les voix des enfants, c'est les mêmes que ceux qui font les voix adultes. Et c'est souvent assez ridicule. Mais bon, à part ça, si on fait abstraction de ça, c'est pas grave.
On remarque que c'est aussi ridicule que lorsqu'on voit les Chevaliers du Zodiac ou les premiers épisodes, il y a Sean qui a une voix de fille, et ensuite on passe au 5e épisode et il a une voix de mec. Ça peut être assez drôle aussi.
Ouais.
Mais ça porte un nom, ça s'appelle la puberté, je crois.
Voilà, ça doit être ça.
Merci pour ta participation constructive. Alors, Silent Moebius, alors comment ça s'écrit? Alors, il y a plusieurs orthographes possibles. L'orthographe officielle, c'est Silent, donc silencieux en anglais. Et Moebius, c'est Moebius. Alors pourquoi ça s'appelle comme ça? J'en ai strictement aucune idée. Il y a un personnage dans la série qui s'appelle Moebius, mais c'est un personnage tellement peu important que bon, voilà. Mais ça fait joli comme titre, on va dire.
Bah, alors, c'est peut-être pour ça, parce qu'on a tellement pas l'habitude de. Il est tellement mineur qu'il est silencieux.
Non. Voilà. Donc, de quoi que ça parle, ça? Eh bien, ça parle ça se passe dans un Tokyo dans le futur. Alors, la date précise, je ne sais plus, c'est 2024, voilà. Alors, que s'est-il passé en 2024? Eh ben non. Plus précisément, que s'est-il passé en 1999? Eh oui. En 1999.
En 2000, il y a eu le bug qui n'a pas eu lieu, mais.
Voilà. Alors, mais en 99, en fait, il y a un magicien, qui s'appelle, Gidelf Licker. Eh oui, désolé. Oui, ils ont mis des noms bizarres. Bon, je pense qu'avec un nom pareil, il est censé être français et que l'auteur du manga a dû prendre le premier mot français qui lui passait par la tête. Et donc, bref, ce magicien-là, il a ouvert accidentellement, semble-t-il, il a ouvert en fait une porte entre deux dimensions. Enfin, en fait, disons, il a mis en contact notre Terre avec une autre dimension qui s'appelle Némésis. Et donc, depuis cette date-là, il y a des êtres qui viennent de Némésis pour foutre le souk sur Terre. Et ces êtres-là, en fait, ce sont des démons. Et les démons sont surnommés, alors en version française, je crois que c'est appelé Lucifer Hawk. Alors qu'en japonais, je crois qu'on les appelle les Lucifer Folk. Mais bon, je pense que les traducteurs français ont trouvé que Lucifer Folk, c'était vraiment ridicule comme traduction. Je sais pas comment ils s'appellent en anglais. Ils ont dû mettre un nom japonais.
Tu le traduirais par quoi, Folk?
Bon, c'est les gens, mais bon, c'est...
Oui, bah, les gens de Lucifer, les faucons de Lucifer.
Ouais, mais ça fait cool, Lucifer. Enfin, Lucifer Hawk, ça a plus de gueule comme nom.
Ouais.
Non, bref, c'est Lucifer.
Postache.
Donc, c'est Lucifer Hawk, ils attaquent la Terre, et spécialement, on se demande pourquoi, Tokyo.
Parce que c'est là qu'a eu l'action du manga.
Voilà, exactement. C'est vrai que chez les Japonais, souvent, quand il se passe quelque chose, c'est à Tokyo. Bon. Là, en l'occurrence, à Tokyo, il y a beaucoup de démons, et il y a une force de police qui a été montée spécialement pour lutter contre ces démons. Une force de police qui s'appelle l'AMP. Alors, le réalisateur, l'auteur du manga apparemment, il ne parle pas très bien non plus anglais, puisque donc le AMP, ça veut dire Attacked Mystification Police. ce qui ne veut rien dire. Mais toujours est-il que c'est quand même une force de police qui lutte contre ces démons.
Et quel est l'auteur du manga ?
Alors l'auteur du manga, tu me poses une colle là, c'est écrit sur la boîte, mais je sais plus. C'est Kiya Azamiya.
Voilà.
Voilà.
Rien. Et je sais pas si tu veux qu'on en parle après du manga ou parce que je
tu connais le manga ?
J'en ai lu deux ou trois, mais en fait Kiya Azamiya a franchement un graphisme assez particulier.
Oui, on peut dire, ouais.
Et vous pourrez trouver vous pourrez le trouver chez Panini Comics. Il est diffusé par Panini Comics. Donc vous pourrez trouver dans toutes les librairies spécialisées.
Ok. Salon Mobius, donc c'est parti d'un manga, donc d'une bande dessinée. Il y a eu ensuite deux OAV, deux films, qui en fait étaient plutôt qui se déroulaient, je crois, plus ou moins avant le comics, il me semble. C'était en fait plus ou moins l'arrivée de l'héroïne dans la force de police pour le premier épisode. Je sais plus de quoi il parlait le deuxième film. Et toujours est-il que là, cette série de dessins animés, cette série de 26 épisodes. Ma tante en fait de survoler l'ensemble de la saga. Alors faut savoir qu'il y a pour les puristes, il y a quelques différences qui existent entre la bande dessinée, les films et puis la série vidéo. Donc moi je vous parlerai uniquement de la série vidéo. Et puis bon, c'est pas des détails très importants. Donc cette force de police, l'AMP, en fait c'est une force de police qui est très réduite puisqu'elle consiste d'une équipe de 7 personnes au départ plus ça montera à 8 personnes à la fin de la série. Et donc en fait ce sont toutes des femmes déjà, et toutes des femmes qui ont des talents très particuliers. Et oui.
Et elles sont toutes jolies. Évidemment.
Elles sont toutes jolies, oui. Alors comme beaucoup dans les dessins animés, en fait la principale façon de reconnaître les personnages, c'est la couleur des cheveux. Et, et là ça s'applique particulièrement, puisque donc il y a... Alors j'avais noté sur un bout de papier les noms des personnages, mais je n'ai pas mis le papier, donc je vais essayer de m'en souvenir de tête. Et, donc en fait il y a l'héroïne qui s'appelle Katsumi Licker. Et oui, Licker, donc, qui est en fait la fille du mage qui avait ouvert les portes aux démons. Et donc, depuis son enfance, elle est poursuivie par les démons, semble-t-il, mais il semblerait qu'elle ait des pouvoirs cachés en elle. Elle a divers pouvoirs secrets, et puis également, semble-t-il, les démons la réclament, puisque c'est elle qui serait la clé qui ouvrirait définitivement la porte entre les deux mondes. Dit-on. Et oui. Donc Katsumi Licker, qui est plus ou moins l'héroïne au départ de la série. Après, c'est, vers la fin de la série, c'est un peu moins vrai. Mais bon, je vais pas vous dévoiler non plus tout de la série.
Oh non, quand même,
parce qu'en fait, elle meurt, donc...
Tais-toi, toi. Non, elle ne meurt pas. Enfin, pas tout à fait. Enfin, bon, bref. Donc, autrement, dans cette équipe-là, il y a une femme qui est d'une force physique peu commune. Alors, je ne sais même plus comment elle s'appelle, j'ai un trou. Enfin, bon, elle...
Wonder Woman.
Non. En fait, on apprend que son secret, en fait, c'est que je peux dévoiler le secret puisque ça vient assez vite dans la série. Elle est robotisée. C'est-à-dire, en fait, lorsqu'elle était policière, en fait, elle s'est fait torturer et découper par un sadique. Elle a survécu et maintenant elle a un corps robotisé. Voilà.
Complètement robotisée ou elle est quand même...
On sait jamais vraiment. Enfin, on sait qu'elle est robotisée. En fait, c'est un robot. En fait, la série animée, elle est assez peu explicite là-dessus. En fait, on sait qu'elle a un corps de robot, mais on ne voit jamais sa partie métallique à l'intérieur d'elle. Mais on sait qu'elle est super forte. Et notamment, donc, l'AMP est équipée de flingues gigantesques, et c'est la seule qui puisse manipuler ces flingues-là. Puisque donc les Lucifer Hawk faut quand même une bonne force de frappe pour les abattre, et donc c'est généralement elle qui manipule les flingues.
Et quel est le code couleur de cheveux pour les robots ?
Alors elle a les cheveux rouges.
Comme quoi.
Et Katsumi elle a les cheveux noirs. Voilà, pour reconnaître un petit peu.
Ça va encore, c'est pas...
Voilà. Donc ensuite il y a un personnage, je crois qu'il s'appelle Yuki, qui en fait elle est... Oui, ça prend en japonais. Il y a Christophe qui est mort de rire là. Donc elle en fait
qu'est-ce qui fait le Yuki, raconte-nous.
Non, elle c'est une jeune femme, c'est apparemment sans doute la plus jeune de l'équipe. Et elle en fait elle a des pouvoirs psychiques mais qui sont très très irréguliers, très difficiles à contrôler. Donc en gros, elle a été élevée pendant toute son enfance dans un milieu fermé, dans un laboratoire. Elle s'en est échappée. Et donc apparemment, ce serait une des personnes les plus puissantes de ce laboratoire. Elle se retrouve dans l'AMP. Dans l'AMP, il y a également une jeune femme qui s'appelle, son prénom c'est Lebia Malevich, je crois qu'elle s'appelle. Et elle, en fait, elle a comme pouvoir, elle a enfin c'est pas vraiment un pouvoir surnaturel, elle a en fait le pouvoir de une sorte de télépathie avec les machines. Elle comprend instinctivement comment marchent les machines et par exemple lorsqu'elle elle peut se brancher sur un réseau virtuel et se déplacer de façon très très rapide et très enfin beaucoup plus efficace que le moindre humain. Elle rentre vraiment comme si elle son esprit était rentré à l'intérieur de la machine.
Bah ça fait un peu comme dans la nouvelle série qu'on a sur M6, Jack
2.0.
Voilà. Qui est assez nul, mais bon.
Elle est un peu moins puissante que ça. Voilà. Et donc j'en ai oublié une. Comme... Oh oui, donc celle-là, elle a les cheveux blonds. Et oui, comment l'air.
Pour l'instant, ça va les cheveux. Hein, ouais,
ouais. Pire. Et enfin, donc il y a une dernière jeune fille dont j'ai également oublié le nom. Je crois que ça s'appelle Nani, je crois. Enfin bref. Et elle a c'est une prêtresse shintoïste. Donc en fait, c'est une prêtresse, une jeune prêtresse. Et en fait, c'est elle qui fait des parchemins pour des talismans pour protéger le bureau et pour protéger des lieux des démons. Les démons les plus puissants, ils s'en foutent des parchemins. Mais c'est vrai que c'est pratique pour repousser les petits démons.
Je sais pas, j'ai jamais essayé de repousser un démon.
Donc bref, elle y arrive très bien. Donc il y a ces cinq personnages-là qui forment l'équipe d'intervention de base. Donc à ces cinq personnes-là se rajoute une sixième personne en cours de série vers l'épisode numéro 16 ou 17, qui est une chinoise, qui je sais plus comment elle s'appelle, mais bon, c'est une chinoise qui elle, c'est une magicienne qui maîtrise bien ses pouvoirs élémentaires.
Et quelle est la couleur des cheveux ?
La couleur des cheveux, elle a les cheveux noirs aussi, mais elle a une coiffure ridicule, donc on les reconnaît bien.
D'accord, donc il n'y a personne qui a une couleur genre...
Si, attends, j'ai pas fini.
Il a gardé le plus étrange pour la fin.
Parce que enfin, il y a les deux dirigeantes de cette équipe-là qui la plupart du temps restent en retrait. Et donc il y a la chef qui s'appelle Rally Cheyenne, elle s'appelle. Oui. Et elle, en fait, elle a les cheveux blancs. Et puis elle est assez, elle doit avoir une quarantaine d'années à peu près, enfin entre 35 et 40 ans. Et elle, en fait, elle semble avoir de grands pouvoirs, mais ne le dévoile que partiellement parce qu'on apprend son secret vers la fin de la série. Mais bon,
celui-là tu vas pas le dire.
Vers le milieu de la série. Oh, je peux le révéler quand même, c'est pas très très grave.
Ouais, arrêtez d'écouter alors. Vas-y.
Voilà. Voilà. En fait, elle a du sang de Lucifer Hawk dans ses veines. Et oui.
Voilà.
Donc elle n'ose pas utiliser ses pouvoirs pour ne pas réveiller son côté mauvais.
Oh là là, le côté obscur de la force.
Et ouais. Et enfin, donc j'en ai oublié une, puisque donc il y a la huitième qui est en fait un personnage qui est assez discret, dont son prénom c'est Mana. Et elle en fait c'est l'assistante de Rally. Et on ne sait pas trop ce qu'elle a comme pouvoir. Elle semble avoir des pouvoirs psychiques assez développés et être très très proche de Rally Cheyenne. Donc sans doute une sorte, enfin qu'elle ait appris ses pouvoirs de sa patronne.
C'est quand même la seule que Lucifer appelle régulièrement pour lui faire le coup de « Je suis ton père
». Non, ça c'est Katsumi, ça lui arrive souvent.
Oh, pardon.
En fait, Katsumi, donc l'héroïne, elle reçoit souvent des visites de démons qui disent « Viens avec nous, ouvre-nous la porte ».
Puis toi qui as la clé.
Voilà. En gros, c'est ça. C'est quasiment ça.
En fait, ils ont tout piqué dans les cantines d'enfants, quoi.
Ouais, ouais. Donc, cette série-là, donc j'ai présenté les personnages. Et en fait, la série parle surtout des personnages, ce qui est très intéressant. Enfin, ça parle en fait de tous les tourments intérieurs des personnages. Il y a également des histoires d'amour là-dedans. Et oui, des histoires d'amour qui sont intéressantes pour une fois. Il y en a pas beaucoup, il y en a deux. Donc, les histoires d'amour, c'est avec Katsumi et puis un membre de la police d'intervention, enfin l'équivalent du GIGN là-bas. Et donc le problème, c'est histoire d'amour terrible puisque donc en fait Katsumi essaie que en fait elle est la clé de la porte des démons, donc les démons vont la poursuivre tout le temps, donc elle veut pas faire prendre des risques à son ami Robert, il s'appelle Robert, oui. Et mais elle l'appelle Roy.
C'est pas ridicule.
Et voilà, et autrement il y a notre femme robot dont le prénom échappe qui elle en fait a une histoire d'amour avec un policier également, et là bon il y a le problème, oui je suis un robot, tu ne peux pas m'aimer, tout ça, mais finalement, et en plus comme c'est un robot en fait elle a tendance à être vraiment teigneuse et elle est tout le temps énervée et elle a tout le temps envie de péter des trucs, et en fait cette histoire d'amour ça la radoucit, enfin c'est assez intéressant comme
D'accord.
Tu allais dire une connerie,
j'allais lâcher que le robot pète un plomb régulièrement, mais c'est pas grave. Non, c'est pas drôle.
Et voilà, qu'est-ce que je peux dire de cette série ? C'est très intéressant. Donc en fait, on découvre au fur et à mesure les liens qui existent entre Katsumi et Lucifer Hawk. On découvre, en fait, effectivement, elle est la clé. Et en fait, effectivement, elle risque de basculer du côté obscur à plusieurs reprises. Et même, elle y bascule un moment, mais je ne vous dévoile pas tout.
Non, c'est sûr.
Non. Sinon, qu'est-ce qu'il y a dans cette série-là ? En fait, on peut dire que c'est un mélange de mysticisme et puis de futurisme, puisque donc ça se passe en 2025 avec des voitures volantes et toutes ces sortes de choses, et puis des flingues bizarres et des vaisseaux qui volent, et en même temps donc il y a tout cet aspect de démons, d'invocations diverses, de pentacles, tout ça, enfin c'est assez marrant ce mélange là. Donc sinon le déroulement de l'histoire est pas mal du tout. Au départ on se demande où on va, et puis il y a toute une série d'épisodes, donc au début de la série, avec un épisode par personnage qui permet de vraiment plonger dans son passé. C'est super intéressant. Et ce qu'on peut regretter, c'est le cinquième DVD en l'occurrence sur la série. Enfin, je trouve que c'est un petit peu confus. Il se passe énormément de choses. Il y a plein de personnages qui arrivent, qui partent, qui changent de dimension, qui remontent dans le temps. Enfin, c'est pas évident à suivre. Mais bon, dans l'ensemble, quand on a regardé le tout, on se dit que c'est vraiment une série assez solide. Point de vue animation, les personnages sont généralement très bien animés. Les décors sont schématiques, mais ça gêne pas puisque de toute façon, c'est un décor très sombre d'un genre Blade Runner, d'un Tokyo futuriste où il pleut tout le temps. Il y a un mélange assez curieux parfois de 2D et de 3D. Généralement, notamment les scènes les plus marquantes, donc par exemple, vers la fin, donc il y a une espèce de machine en fait qui se transforme en démon, enfin une machine qui est possédée par un démon et qui donc devient une espèce de gigantesque dragon, et ça c'est fait en 3D et c'est vraiment pas mal du tout. Bref, c'est très intéressant visuellement. L'histoire est super intéressante, les personnages sont très intéressants, et en plus c'est pas très cher, donc ruez-vous dessus, ça vaut carrément le coup.
Quand tu dis pas très cher, c'est-à-dire
Alors moi je l'ai pas acheté, on me l'a prêté, mais je crois que c'est c'est entre 30 et 40 euros, je crois, le coffret de 5 DVD, ce qui est plus que raisonnable.
Ça va.
Voilà. Donc voilà, quelle heure est-il, Hervé, puisque je n'ai pas de montre.
Il est moins le quart.
Moins le quart. Je propose qu'on fasse une petite pause avant que je raconte d'autres conneries.
C'est comme tu veux.
Ouais. Enfin, j'espère que j'ai pas trop dévoilé de secrets sur Silent Mobius. Je préfère me taire pour pas en dévoiler trop, parce que j'ai déjà dévoilé la moitié des secrets là.
Je ne sais pas, je n'ai pas vu la série.
Mais tu as lu les.
La série des mangas se compte par 6 et il y en a seulement 6. Je pense que la série doit développer un peu plus.
Ouais. Donc, bref, ce que je propose d'écouter, c'est que tout à l'heure on a écouté. Juste avant, nous avons écouté donc la version de David Bowie de Cactus, et donc je propose qu'on écoute maintenant la version Pixies. Donc tu l'as mis dans la boîte déjà ?
Je ne savais pas que je devais mettre un CD.
Oui, tu peux te déplacer pour prendre les CD, parce que moi j'ai gardé les CD avec moi, qu'est-ce que je suis con. Donc je propose que Christophe, que toi-même tu viennes chercher le CD, et puis tu mets la chanson numéro 8, et puis je te file les autres CD aussi, tant qu'à faire. Voilà.
Cette organisation.
Ah ouais, c'est Christophe est absolument admiratif là devant le. Déjà, la haute technologie et plus l'organisation bien huilée, c'est
une telle maîtrise d'œuvre.
C'est génial.
Je peux juste rajouter un truc sur Silent Mobius qui, moi, en tout cas, m'aura intéressé si j'avais été de l'autre côté de la radio. C'est juste préciser que c'est un dessin animé japonais, mais qui ne contient apparemment pas spécifiquement de scènes ni violentes, ni de démembrement, ni de sang, ni quoi
que ce soit.
Ce qui fait qu'on peut le regarder avec son fils.
Exactement. Il n'y a pas de violence sanglante, il n'y a rien de tendancieux, les histoires d'amour sont très pures et très belles. C'est vraiment, moi je dis c'est vraiment du grand public, et tout en étant grand public, c'est quand même très intelligent, ça prend pas les téléspectateurs pour des imbéciles. Il y a des épisodes avec du suspense. Bon, si on réfléchit un peu, on peut deviner un peu ce qui va se passer dans la suite de l'épisode, mais globalement c'est vraiment très intelligent et vraiment accessible à tous.
Ok, si tout le monde est d'accord et si personne n'est contre, on va donc mettre la musique. Donc je vous dis, on vous dit à tout à l'heure.
Ouais, suis un peu, dont Hervé, quand les chansons sont finies, tu nous passes le micro. Oh. Donc, ouais. Je vais vous, à nouveau, une fois de plus, vous parler de ma merveilleuse collection de DVD. Eh oui. Je vais faire ça par paquet de trois, comme d'habitude. Et donc, en l'occurrence, là, je vous ai amené deux trucs pas chers et un truc luxueux. Donc, on va commencer par le truc luxueux. On va terminer par ce qui est pas cher, c'est plus rigolo.
En effet.
Alors, le truc luxueux, c'est un film que j'ai découvert assez tardivement, alors qu'il était diffusé, je crois que c'était il y a une dizaine d'années, ça devait être diffusé sur la 3, qui passe souvent des bons films. Et c'est Phantom of the Paradise. Et
oh oui. Là là.
Ah, Phantom of the Paradise. Un des premiers grands films de Brian De Palma. Enfin, son premier succès international, donc qui a eu d'ailleurs pris au festival d'Avoriaz en 75, il me semble. C'est ce que tu as dit.
75. Oui.
75. Oui, oui. Merci Christophe. Et donc, alors c'est un. De quoi parle ce Phantom of the Paradise ? Eh bien, c'est une variante du fantôme de l'opéra. Donc, je ne connais pas le fantôme de l'opéra.
C'est un très 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 bon roman.
Oui, très très bon roman. Il y a eu de bons films aussi dessus, semble-t-il.
J'ai pas vu les films.
Ouais. À part celui de Dario Argento qui était pourri, paraît-il. Ce qui n'est pas bon. Bref. Toujours est-il que Phantom of the Paradise, ça parle en fait d'un homme qui hante un endroit qui s'appelle le Paradise. Un Paradise qui est donc une sorte de salle de concert de rock. Alors comment commence cette histoire ? Cette histoire en fait, ça commence par l'histoire d'un compositeur qui en fait tente de faire reconnaître sa musique et de la faire commercialiser auprès d'un producteur, un producteur qui s'appelle Swan, qui est donc est un type absolument cynique et sans scrupules. Et toujours est-il que ce compositeur-là compose une certaine musique que Swan, en fait, en l'écoutant, lui dit ben c'est nul, on veut pas de toi. Et en fait, il s'avère après que Swan va piquer des bouts de cette musique-là pour faire ses propres morceaux. Et oui. Et donc ce Swan-là, le film commence alors que Swan va ouvrir bientôt son ultime salle de rock qui s'appelle le Paradise, et donc il cherche en fait à monter un spectacle pour l'ouverture de cette salle. Et donc le musicien là qui s'est fait jeter et piquer sa musique, il va essayer de s'incruster, de faire reconnaître à Swan qu'il fait partie de ce spectacle-là, faut qu'il compose, etc.
Ouais, il y a aussi le fait que le jeune compositeur est amoureux d'une chanteuse.
D'une chanteuse qui participe à ce spectacle également. Voilà. Enfin, toujours est-il que Swan, il en a marre de cet important, et il va utiliser les moyens les plus radicaux pour s'en débarrasser. Donc en fait, il va le faire mettre en prison. Il va le balancer dans les poubelles avec de la drogue plein les poches, et donc ce pauvre compositeur va se retrouver en prison dans un pénitencier, et il va s'en échapper. Donc suite à divers accidents plus ou moins abracadabrantesques, ce compositeur là va se retrouver en fait mutilé. Il va avoir un accident de presse disque, enfin de presse à disque, et il va se faire arracher la moitié du visage par une presse à disque qui tourne. Et il est défiguré, et donc il met un masque, et il met un costume en cuir, et donc revêtu de ce costume de justicier, il va vouloir saccager l'ouverture du spectacle du Paradise. Et donc c'est plutôt rigolo, puisque donc c'est construit sur le principe d'une comédie musicale un petit peu. Il y a beaucoup de morceaux de musique, puisque donc il y a les répétitions, il y a également les véritables morceaux de l'ouverture du Paradise, et donc il y a la terrible vengeance de Winslow qui s'exerce pendant le film. Donc il y a des meurtres, il y a pas tant que ça de meurtres. Il y a surtout le meurtre de Biff, qui est le chanteur qui est choisi pour ouvrir le Paradise, qui est une espèce de... C'est absolument invraisemblable. C'est une espèce de chanteur de hard rock, chanteur de hard rock plus ou moins homosexuel, dandy, avec des frisettes. Enfin, il est ridicule. Et donc on est assez content qu'il se fasse massacrer de façon tout à fait ridicule. Enfin, c'est pas mal d'humour quand même. C'est méchant mais plein d'humour.
C'est pas le leader de Metallica qui a été pris pour le rôle d'ailleurs, je crois.
Non, je sais plus qui c'est, mais il est très bon. Et donc toujours est-il que le Swan va finir par rallier à lui Winslow, lui dire finalement je veux bien de toi, et par contre il va l'enfermer dans une pièce et le forcer à composer donc le le spectacle d'ouverture jusqu'au bout. En fait, le truc est en train d'ouvrir, le spectacle d'ouverture se déroule sur plusieurs jours, et donc Winslow, on lui fait réécrire le spectacle qui va être joué après en direct. Enfin bon, c'est un petit peu absurde comme truc. Et bah, toujours est-il que donc ce film-là, également, il y a un aspect fantastique, puisque donc, outre le fait que le héros soit masqué, etc., il s'avère que Swan, lui aussi, est un être surnaturel, puisque donc il refuse de faire prendre photo, et pour cause, car il est immortel, et si jamais il se fait prendre en photo, si jamais il se prend en photo, ça dévoilera son vrai visage et il ne veut pas. Voilà, c'est je ne dévoile pas plus puisque donc la toute
en fait, elle va lui prendre son âme quoi.
Voilà, c'est ça. Et donc en fait, ben le il y a cette histoire de d'immortalité, de vol d'âme, de vengeance sombre dans une comédie musicale totalement déjantée. Et donc ben c'est plutôt amusant parce que aussi il y a faut dire que le personnage Swan est joué par le véritable comment dire le véritable musicien du film, enfin le véritable compositeur du film qui s'appelle Paul Williams, qui n'a pas de lien de parenté je crois avec John Williams,
je crois qu'il en a pas du tout,
non. Et ben Paul Williams qui continue actuellement à faire de la musique, et donc ben là qui joue une espèce de il cabotine dans une espèce de rôle de gnome hystérique, enfin c'est à voir, c'est super super intéressant. La musique alors on peut trouver qu'elle aura mal vieilli, enfin c'est très quand même c'est très 70s, mais
c'est très 70s. Moi je l'avais vu en VHS mais je l'avais vu il y a bien c'est vrai une dizaine d'années. Certains morceaux m'avaient plu, d'autres m'avaient paru franchement un peu longuets.
Voilà. Mais donc faut savoir que ben ça reprend un peu tous les styles musicaux de l'époque, et il y a quelques moments assez hilarants, notamment je me rappelle au début du film il y a Swan qui visionne en fait plusieurs styles de musique enfin il y a une chanson et il la fait chanter par 5 ou 6 groupes différents. C'est carrément hilarant. Il y a la version country, il y a la version le duo de Black, il y a la version ABBA. Enfin c'est excellent. Enfin il y a plein de scènes, plein d'humour. En même temps c'est cruel, c'est un film d'horreur un petit peu aussi. Notamment la fin est totalement hallucinante. Oui. La fin ça se raconte pas, faut le voir. C'est une.
C'est comme lorsqu'il devient le fantôme, donc le. Avec l'accident avec la précédente, ça se raconte pas, ça se voit.
Ça se voit, oui, c'est totalement irracontable comme film. C'est vraiment inclassable. C'est un film d'horreur, comédie musicale. Et donc, c'est de Brian De Palma.
Comme le dit la jaquette, c'est un film méchamment drôle.
Voilà, ou drôlement méchant. Enfin, toujours est-il que Brian De Palma, il a fait des bons trucs depuis, mais là, je pense que c'était vraiment le gros coup d'éclat et c'est génial. Quelle heure est-il? Est-ce que j'ai le temps de parler de deux films rapidement?
Je pense que oui, puisque de toute façon, je n'ai pas entendu le pang-bang de nos amis des Pélégriques. Donc, tu peux continuer.
Ok, merci monsieur. Alors, je vais vous parler de deux films pas chers, enfin que l'on trouve pas chers.
Déjà, tu peux en parler d'un, au cas où nos amis y arriveraient.
Ok, donc je vais commencer à parler rapidement d'un film que je n'ai pas aimé. Donc, ça s'appelle La fiancée de Reanimator. Et oui.
Est-ce que tu as vu le premier?
J'ai vu le premier.
Donc, d'accord, je comprends que tu n'aimes pas.
Bah, pourquoi? Explique-moi Hervé pourquoi je devrais ne pas aimer le deuxième si j'aime le premier. Au secours.
Je préfère le premier au deuxième.
Hmm.
Moi je préfère le premier au deuxième.
Moi aussi. Voilà. Ouais. Ah c'est tout. Donc nous sommes du même avis.
Voilà.
C'est génial. Alors de quoi ça parle La fiancée de Reanimator? Bah c'est la suite, comme son nom l'indique, de Reanimator. Et Reanimator, ça parlait d'un médecin qui s'appelle comment il s'appelle Herbert West, qui fait des expériences sur des cadavres. En fait, il a trouvé une formule qui ressuscite les cadavres. Et oui, mais ça marche pas très bien, faut dire. Non. Enfin, ça marche, ça ressuscite le corps, mais disons ils sont pas très malins les ressuscités. Donc ben Herbert West, peu importe, il tente des expériences.
On a déjà parlé du le premier. Normalement, il était censé être mort. Il y a déjà moi je trouve que c'est quand même une grosse erreur. Le premier à la fin on le voyait pas mort.
Oh non non, enfin il y a le plus ou moins une baraque qui s'effondre sur lui, mais on peut supposer qu'il peut survivre, non?
Et écoute, je vais te faire écrouler une baraque sur toi ou en ce moment avec Brass 2004 un bateau, tu vas me dire si tu vas
bah attends, c'est des films, attends, on va pas trop demander non plus, surtout c'est